Voici il
béni soit tu. Tu nous as fiancés à toi, dans la tendresse et la fidélité, d'un amour éternel, tu nous as rachetés.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, tu nous as aimés le premier. Ton alliance au fond de notre être, tu l'as écrit dans notre cœur. Béni sois-tu,
Jésus, soleil levant,
tu as fait briller chez nous
l'amour.
J'ai eu l'occasion de regarder dans la documentation catholique, la dernière, un colloque qui a eu lieu les 13 et 14 mai 2016 à Oran sur l'actualité de l'œuvre de Mgr Pierre Claverie, 20 ans après sa mort, puisqu'il a été assassiné en Algérie en 1996. Et le père Bernard Janicot, à cette occasion, a donné une conférence sur l'approche qu'avait Pierre Claverie du dialogue entre chrétiens et musulmans. Et ce message, ce témoignage, est pour nous important à notre temps. Il peut nous éclairer dans nos rencontres avec des musulmans. Mais il apporte aussi des indications très importantes sur les questions du dialogue. Et à ce niveau-là, à ce sujet-là, je crois qu'il est très intéressant. On pourra le méditer. Vous aurez le texte dans la prochaine amendier. Et vous pourrez, parce qu'il est très concret sur ces questions de dialogue et de prière. Mgr Pierre Claverie était un évêque chargé d'animer et de veiller sur une communauté chrétienne, celle du diocèse d'Oran, qui recouvre toute l'Oranie, et sa parole était nécessairement une parole de responsable au plus près des chrétiens, mais aussi de tous ses amis musulmans. Ils étaient fort nombreux et fort différenciés. Pierre rencontrait d'abord et avant tout des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, dans le respect de ce qu'ils étaient, musulmans fervents pour certains, beaucoup moins pour d'autres, et pas du tout pour quelques-uns. Et voici le texte. Certaines de ces difficultés qui tiennent au concept, toute rencontre est difficile. Certaines de ces difficultés de dialogue tiennent au contexte international et aux violences entre communautés. En 1986, c'est la crise libanaise, les tentatives d'islamisation de l'Afrique du colonel Kadhafi qui retiennent l'attention. En 1991, c'est le conflit de Bosnie-Herzégovine. Et plus tard, ce sera la guerre contre l'Irak, la montée en puissance des courants islamistes radicaux dans les différents pays arabes, et bien entendu en Algérie. Les sujets d'inquiétude existent, ils sont nombreux. Pierre ne faisait jamais l'impasse sur les réalités sociopolitiques. Son analyse n'est jamais exclusivement religieuse. Elle s'inscrit dans un contexte social, dans celui de relations politiques nationales ou internationales. Mais au-delà de ces difficultés liées au contexte national, international, il affirme que toute rencontre est difficile. La rencontre est l'acceptation de la différence, de l'altérité, sont les choses les plus difficiles pour les personnes et pour les groupes humains, quels qu'ils soient. Le premier réflexe instinctif devant quelqu'un de vraiment différent, autre, est la méfiance, le repli sur soi, la défense. Pierre souligne souvent l'importance de la culture, dans la mesure où chaque culture organise l'espace social et privé de manière différente. La culture nous conditionne beaucoup plus profondément qu'il n'y paraît, et nous l'ignorons trop souvent. Chaque personne est entourée de bulles invisibles. Lorsque nous rencontrons une personne, nous rencontrons d'abord un autre univers culturel. D'une culture à l'autre, les mots n'ont pas exactement le même sens, ne reflètent pas les mêmes réalités. Le caractère universel du christianisme et de l'islam constitue aussi une difficulté. Quoique de manière différente, nous entendons bien proposer notre message à toute l'humanité. Et cela ne peut manquer de créer des conflits nés d'une concurrence à la fois théologique qui nous engage dans des polémiques sans fin et pratiques qui nous opposent parfois, encore aujourd'hui, dans la violence. Cette compétition permanente ne contribue pas à ouvrir les voies d'un dialogue serein. Néanmoins, un dialogue nécessaire. Il est bon de relire l'histoire pour guérir la mémoire. Dès les origines, nous avons hérité les uns et les autres d'une image de l'autre qui va se superposer encore aujourd'hui à la réalité. Je n'ai pas la naïveté de penser qu'il soit facile de faire abstraction de ce passé, dit Pierre. La mémoire des peuples est longue, profonde. Il est bon qu'elle le soit pour assurer la pérennité dans l'histoire. Mais le dialogue est nécessaire et même indispensable. Il suffit de regarder la carte des tensions qui traversent les peuples pour réaliser que nos religions demeurent des ferments de division et de guerre, plus que d'union et de paix. Comment le Dieu des chrétiens et des musulmans peut-il être crédible aux yeux de milliards d'athées alors que ses disciples se déchirent mutuellement, pour des raisons sans commune mesure avec leur message. Mais il ne suffit pas de dire cela pour que le miracle de la réconciliation se produise et que ces croyants œuvrent enfin sans arrière-pensée de domination. Et c'est là que le dialogue paraît essentiel, au moins pour éviter le pire. Cela suppose justement que l'on sorte des images que nous avons les uns des autres, y compris des idées véhiculée par des théologies traditionnelles pour rejoindre les vivants. Les vivants qui sont des croyants, qui ne sont ni des croisés, ni des terroristes. Un islam vivant qui n'est pas totalement enfermé dans des discours islamistes, mais qui se cherche aussi sous les coups de butoir de la modernité. Car contrairement aux apparences, l'islam n'est pas monolithique. Et la crise qu'il traverse pousse à des remises en question qui préludent à des mutations importantes, et c'est aussi la raison probable des blocages intégristes. Ainsi, Pierre Claverie, après avoir constaté et analysé les difficultés, celles qui tiennent au passé, celles qui tiennent au présent, peut alors lucidement et en toute connaissance de cause, sans risquer de passer pour un naïf, affirmer la nécessité de la rencontre, du dialogue, et ce point est au cœur de toutes ses interventions. Plus que jamais, le dialogue est nécessaire et nous devons tout faire pour le sauvegarder et le promouvoir. Le dialogue est nécessaire à cause de la mondialisation croissante qui amène les personnes d'origine de deux religions différentes à vivre au plus près les unes des autres. Ce qui se vivait jadis au loin se vit maintenant à nos portes, dans notre quartier, dans notre ville. L'arrivée plus importante ces dernières années de populations venues d'ailleurs ne peut qu'augmenter les difficultés, les incompréhensions grandissantes entre les communautés. Et là aussi, il est possible de penser que dans de nombreuses régions du monde, ces incompréhensions réciproques n'ont fait que grandir depuis 20 ans. La cohabitation est de plus en plus fréquente. Elle doit se vivre dans la différence. Et au-delà même des différences, elle doit se fonder sur une volonté obstinée de vivre ensemble. Car malgré toutes les difficultés, cette rencontre existe. Elle est possible. Encore faut-il réunir les conditions minimales pour qu'elle donne naissance à la relation de dialogue et non à des affrontements. Les premiers pas et les conditions du dialogue maintenant. Ouvrir les yeux pour voir dans l'autre son altérité. Nous rendre compte que nous avons besoin des autres pour être complètement nous-mêmes, pour composer ensemble la plénitude de l'humanité. Aucun ne peut atteindre sa plénitude sans les autres. L'humanité est plurielle. Nos différences peuvent nous entraîner dans une émulation et une conversion au Dieu qui nous éclairera un jour sur le mystère de leur pluralité. Comment ne pas en penser, en lisant ces lignes de la sourate 48:5, qui dit ceci : Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns et les autres par les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu et il vous éclairera au sujet de vos différends. Autre aspect, le respect de la liberté de l'autre. Attendre de l'autre une part de vérité. Non seulement j'admets que l'autre est autre, sujet dans sa différence, libre dans sa confiance, mais j'accepte aussi qu'il puisse détenir une part de vérité qui me manque, et sans laquelle ma propre quête de vérité ne peut aboutir totalement. J'ai besoin de lui, car il manque à ma connaissance. L'autre peut donc m'apporter quelque chose d'essentiel, car nous ne possédons pas la vérité. C'est elle qui nous saisit et nous entraîne à découvrir plus profondément. L'emprisonner dans un texte ou une loi, c'est la perdre ou la rendre stérile. La vérité se nourrit de la confrontation des recherches par lesquelles chacun en saisit une parcelle en croyant qu'il atteint sa plénitude. Cette plénitude se compose de la multitude des découvertes, comme la lumière, de l'unification des rayons diffractés. Nous avons besoin les uns des autres pour accéder à la vérité tout entière. Si nous manquons ce rendez-vous, la vérité éclatée continuera à opposer les habitants d'un monde en miettes. De plus en plus et partout, les hommes de toute race, de toute culture, de toute religion sont appelés à cohabiter. Il est donc urgent de travailler à rendre la rencontre possible dans le respect et dans la confiance. Le rôle de la prière. Des relations existent entre les hommes et les femmes de foi et de prière, issues des confréries mystiques musulmanes ou des congrégations religieuses chrétiennes. On prie ensemble le Dieu unique, en éclairant les exigences de son message, en partageant les expériences spirituelles. Des rencontres régulières ont lieu parfois sur des thèmes concernant les deux parties, comme la conversion, la réconciliation, la paix, la lumière, la figure d'Abraham ou celle de Marie. Ces rencontres sont le gage d'un avenir possible. Elles existent entre les hommes libres, qu'ils ne sont pas assujettis aux lois et contraintes de leur groupe. Ils ont rejeté les préjugés et même parfois les jugements péremptoires portés sur les autres par leur tradition. Ils ont privilégié l'approche de la rencontre des personnes. Le dialogue islamo-chrétien commence dans la vie quotidienne, dans les relations de voisinage, de service et d'amitié parfois, qui s'établissent avec le temps et qui peuvent faire naître un sentiment d'estime et de respect réciproque. Dans la relation sociale et professionnelle, des collaborations et des luttes communes pour la liberté, la justice et la paix, pour un monde encore plus humain, contribuent nécessairement à renforcer la communication et la communion. Alors viennent des questions sans lesquelles le dialogue ne serait qu'un double monologue ou un dialogue de sourds. Car avec l'expérience d'une vie ensemble, naissent des mots pour dire des vérités partagées. L'échange sur les raisons de vivre devient possible sans qu'il soit incongru ou prosélyte. Le dialogue devient ainsi religieux à condition que le respect de l'autre soit associé à un souci de vérité et qu'à aucun moment on ne travestisse ses convictions pour les rendre plus acceptables. Si la relation est sincère, cette exigence de vérité va de soi et constitue le fondement même du respect que l'on a envers l'interlocuteur. On ne construit rien sur le mensonge, la peur de déplaire et les demi-vérités. Pierre Claverie se montre assez critique vis-à-vis de grands collègues islamo-chrétiens. Dans les rencontres plus formelles, nous en sommes à peine au béaba, au laborieux défrichement du langage et de la pensée de l'autre. Pour n'en avoir pas eu conscience, de graves confusions ont marqué les premières rencontres islamo-chrétiennes et ont abouti à des échecs notables. Dans ces grandes rencontres islamo-chrétiennes, dans lesquelles chacun se révèle, ne révèle que ce qui est susceptible de plaire ou au moins d'être accepté par l'autre et remis soigneusement ce qui pourrait poser question, les bases communes du dialogue, justement recherchées, souffrent alors souvent de ces ambiguïtés qui ne permettent pas de progresser. Je crois beaucoup à la franchise et à la vérité. On ne bâtit pas une existence commune sur des demi-vérités ou des mensonges pour éviter de déplaire aux autres. Il nous faut chercher ensemble la vérité avec ses exigences sans compromis facile qui nous exposerait à des désillusions plus graves que la simple ignorance. De cette existence que nous partageons, nous essayons de nous aider à grandir en humanité, ayant avant d'engager un dialogue religieux. Il y a un terreau commun où nous plongeons tous nos racines. Mettons au jour ces racines et cultivons ce terreau humain.